Philo in vivo, Anne-Laure Ganac.
Philo in vivo, bonjour à tous, bienvenue. Est-ce de l'art ou du cochon ? Eh bien, ça peut être les deux, figurez-vous, si l'on regarde une œuvre de Wim Delvoye, par exemple, qui a présenté il y a quelques années des cochons tatoués lors d'une exposition. L'artiste belge, l'un des grands noms de l'art contemporain, cet art pour le moins déroutant qui en incite certains d'entre nous à demander l'art, mais à quoi bon, voire à affirmer ça ne sert à rien. Alors ça ne sert à rien, vraiment, l'art ? Eh bien, on va poser la question à Aristote. Ah mais non, on m'apprend que Aristote a raté son train. C'est donc vous, Anthony Bekirov, qui allez nous exposer sa vision de l'art dans la deuxième partie de cette émission. Bonjour Anthony.
Bonjour.
Anthony Bekirov, vous avez 22 ans. Alors vous êtes un cas à part quand même parmi nos étudiants en philosophie qui défileront à ce micro chaque jour, puisque vous n'êtes plus étudiant. Voilà, après votre bachelor obtenu l'an dernier en philo et en latin, vous avez choisi d'interrompre, disons, vos études par désaccord avec l'enseignement. Alors ça ne veut pas dire que vous ayez cessé la réflexion philosophique, loin de là, et nos auditeurs, je pense, s'en rendront très vite compte en vous écoutant. D'ailleurs, avec Jamil Alioui qu'on recevait avant-hier et David Pagotto qu'on rencontrera bientôt, vous avez fondé le séminaire Les étudiants en philo lisent, qui sévit, si je puis dire, dans les locaux de l'UNIL, l'Université de Lausanne. C'est quoi ? C'est une plateforme d'expression philosophique avec, je crois, une volonté de revenir au texte, c'est ça ?
Là, exactement. On propose aux étudiants, ou même à qui veut bien, une plateforme d'expression, c'est-à-dire que n'importe qui peut nous proposer un texte et ses réflexions, son travail sur ce texte, et venir le présenter à un auditoire, nous autres, tous ceux qui veulent bien venir, sur une base non régulière. Et tous ensemble, on mène une réflexion sur le texte que l'auditoire aussi a reçu à l'avance et donc a préparé.
Parce que vous avez le sentiment qu'on oublie de lire les textes originaux, c'est ça, dans l'enseignement en général ?
Oui, en général, on préfère rediriger vers des commentaires qui sont évidemment plus simples que la langue de l'auteur étudié. Mais surtout, je pense qu'on ne donne pas assez l'occasion de prendre le temps de lire le texte original. Souvent, il y a des contraintes universitaires, il faut avoir ses crédits, il faut finir le travail. Tandis que là, il n'y a aucun enjeu, justement. C'est pour le pur plaisir d'apprendre.
D'accord,
la donc
c'est
l'auteur.
Je comprends. Donc c'est ouvert à tous, si
exactement.
On veut. D'accord. On indiquera la référence du site de cette plateforme, donc les étudiants en philo lisent, sur la page de notre émission, sur le site rts.ch, car oui, j'avais oublié de vous le dire, et c'est important, nous avons une page rts.ch/philo-in-vivo, où vous pouvez écouter, podcaster toutes les émissions et retrouver donc les références des livres et autres informations mentionnées durant chacune d'elles. Donc revenons à vous, Anthony. Vous lisez, donc, vous avez lu beaucoup, et notamment Aristote, dont vous avez tenu à nous parler. Pourquoi Aristote ? Qu'est-ce qui vous plaît chez ce penseur de l'Antiquité ?
Bon, alors si on se souvient du tableau de Raphaël, on voit il y a Platon, doigt au ciel.
Et l'école d'Athènes, j'en
l'école
parlais
d'Athènes,
justement
voilà.
Il y a deux jours avec votre collègue Jamil Alioui. Mm-hmm.
Donc Platon, doigt au ciel, et Aristote, la main tendue au sol. Si certes Platon est réputé pour sa philosophie des idées, donc la philosophie d'un monde qui serait indépendant d'une autre, Aristote, lui, va théoriser le plus loin, à son époque, une philosophie qui reste dans la réalité humaine et la réalité surtout physique.
C'est ça qui vous intéresse, c'est ça qui vous a plu chez lui.
Exactement, il ne fait jamais appel à une réalité transcendante au cours de ses écrits, même si ses écrits sont assez litigieux puisque nous n'avons aucun texte publié d'Aristote. Ils ont tous été perdus.
Oui, alors on n'a que des notes, c'est ça ?
Exactement.
On n'a pas ses écrits directs. Les notes de ses élèves, je crois ?
Les notes de ses élèves ou des notes de sa propre main qu'il a rédigées pour son cours et qui sont forcément compréhensibles pour lui, qui a le cours en tête, mais moins pour nous, qui n'avons pas sa voix.
D'accord. Donc c'est ça qui vous a plu ? Quoi d'autre, peut-être, qui vous rend ce philosophe particulièrement sympathique, intéressant, admirable, peut-être ?
Ben, c'est son esprit hétéroclite, il touche vraiment à tout, il part à la recherche, littéralement, d'objets d'études, il écume le monde à travers toute la Grèce connue alors pour trouver c'est des matériaux d'études à ses réflexions sur la biologie, par exemple, qui nous donnent évidemment des résultats parfois.
Ah oui, alors j'ai relu pour préparer cette émission. Aristote s'intéresse à tout, vous avez raison de le dire. C'est-à-dire qu'il se demande aussi bien comment donner la preuve de l'existence de Dieu que pourquoi les pierres tombent et la fumée monte, ou encore pourquoi l'homme est le seul animal à avoir des poils au pubis ou à avoir les yeux qui partent vers le haut quand il jouit alors qu'ils vont vers le bas quand il dort. Ça, ce sont des questions, je trouve, qu'on ne se pose pas assez au quotidien. Eh bien, heureusement, Aristote se les pose, il répond, rien n'échappe en fait à son goût du savoir.
Tout à fait, mais disons, si Platon préférait s'enquérir dans les idées, Aristote lui montre que finalement, la connaissance se fait dans la réalité humaine, la réalité physique qui nous entoure. Et pour bien connaître le monde, il faut bien connaître les espèces animales. Du coup, c'est pour ça qu'il passe autant de temps à spécifier chacune des caractéristiques dans chaque espèce dont la jouissance est la pilosité pubienne.
C'est ça. Dante l'appellera le maître de ceux qui savent, hein, tant son savoir est sans frontières. Et puis parce qu'il est aussi très méthodique dans son effort de connaissance. Hein. Mm-hmm. Alors on en reparlera sans doute. On revient quand même un petit peu à sa biographie, Aristote. Qui est-il? Où naît-il? Dites-moi.
Donc il naît à Stagir, d'où son surnom Stagirite. Hein. En -384, et il meurt en -322. À 17 ans, il arrive à Athènes, évidemment, comme étudiant de philosophie. Qu'est-ce qu'il fait? Il va chez Platon.
Chez Platon, évidemment. Donc, l'académie.
À l'académie, voilà. Platon, tout de suite, reconnaît le talent du jeune Aristote. Aristote, évidemment, essaye d'apprendre le plus possible de son maître, et forcément, il y fait des étincelles dans les deux sens, c'est-à-dire qu'il brille, mais il crée une friction avec le reste de l'académie et surtout Platon qui, certes, l'admirait, mais le condescendait ouvertement pour ne pas perdre la face.
Mais c'est ça, il ne faudrait pas que l'élève dépasse le maître.
Exactement.
Quand même.
Et d'ailleurs, l'histoire assez croustillante, à la mort de Platon, il fallait reprendre l'académie. Évidemment, Aristote se pensait idéal et bien d'autres pensaient Aristote idéal, étant donné qu'ils connaissaient le mieux la philosophie de Platon. Et non, c'est le neveu de Platon, Spesippe, qui est mis à la tête. Aristote, évidemment, s'énerve.
Qui l'a choisi? Comment? C'était quoi? C'était un vote?
Ah, c'est un vote, c'est tout à fait un vote, vous pensez bien, démocratique, oui. Dans la limite de l'académie. Parce qu'évidemment, Aristote provoquait des scissions, c'est un homme de caractère.
Oui,
hein. Il imposait un peu ses mœurs aussi. Et donc forcément, il est parti ensuite rejoindre Alexandre. Il était le précepteur d'Alexandre le Grand.
Oui, il l'a été après, parce qu'il était vexé
après,
en fait,
exactement.
Par ce désaveu.
Et certains, et les mauvaises langues, ont dit qu'il a trouvé en Alexandre une espèce de corrélat de ses mœurs un peu différentes. D'ailleurs, il était l'un des très rares Grecs, en tout cas sages, en tout cas dans le milieu de la philosophie, à se raser.
Ah oui, il n'avait pas la barbe.
Il n'avait pas la barbe, Aristote. Exactement, il n'avait pas la barbe. Et après coup, certains ont dit qu'il avait hérité ça d'Alexandre le Grand, qui lui-même avait un certain penchant pour la culture perse où l'on se rasait.
Mm-hmm. Oui, donc ça ne devait pas trop plaire aux Grecs, ça?
Non.
Pas tellement.
Non,
d'accord.
Non.
Mais il n'en faisait qu'à sa tête, si je comprends bien ce qu'il est.
Il était très caractériel, mais comme tous les grands penseurs. D'ailleurs, Platon n'était pas un homme facile à vivre non plus, je n'en doute pas. D'ailleurs, Socrate non plus. Hein.
Oui, voilà. Bon, il faut savoir ce qu'on veut, hein, le talent et le caractère. Aristote, après, il va fonder sa propre école, le lycée, c'est ça?
Voilà.
C'est après avoir éduqué,
C'est, évidemment, l'éducation d'Alexandre le Grand a deux grands caractères. De nouveau friction, Aristote est parti pour plein d'histoires, n'a pas trop le temps de développer. Il revient à Athènes en -335. Là, il fonde avec quand même, il s'est amassé quelques élèves. Mm-hmm. Il fonde le lycée, pas loin de l'académie d'ailleurs, comme concurrence ouverte d'ailleurs. Vraiment, il fonde ça à Athènes pour concurrencer l'Académie de Platon.
Ah oui, puis en plus, il ne se contentait pas de rester dans des salles, c'est-à-dire qu'il marchait, c'est ça? Il déambulait, c'est le terme de péripatéticien.
Ah oui, alors ça, c'est une légende.
Ah mince.
C'est une légende parce que le lycée est fondé près d'une promenade.
Oui.
Qui se dit donc péripatos comme ça, en grec. Et le nom péripatéticien veut dire ceux qui enseignent ou ceux qui lisent à la promenade, mais pas en se promenant.
Oh mince, c'est tout un mythe qui s'effondre.
C'est tout un mythe, effectivement. Il ne faisait pas des tours dans la cour.
Alors, à cause de ces rapports, vous me dites, avec Alexandre, à cause de la révolte anti-macédonienne aussi, on veut le mettre à mort, je crois.
Exactement. La mort d'Alexandre le Grand, c'était un peu houleux, son héritage, il y a eu beaucoup de guerre, d'héritage, j'en sais pas trop quoi faire. Et puis en plus, Alexandre le Grand, caractériel qu'il était, et assez peu grec finalement, étant donné ses mœurs perses, il déplaisait énormément. Mmh. Et on a essayé d'éradiquer la mémoire d'Alexandre le Grand, et forcément, Alexandre, précepteur d'Alexandre, on a vite fait le lien en disant, si Alexandre est comme ça, c'est à cause d'Aristote. On a voulu mettre à mort Aristote aussi, comme une sorte de punition a posteriori. Il est parti, disent les témoignages, pour éviter d'être un second Socrate.
Oui, Socrate qui avait été
mis à mort par les Athéniens. On ne va pas laisser les Athéniens faire un second crime contre l'humanité tout de même.
D'accord. Alors, il avait un sacré caractère, vous me dites, Aristote. Ce qui m'étonne, parce qu'il me semble que c'est l'un des philosophes de la tempérance, la voie de la juste mesure, non?
Alors, c'est sûr, la juste mesure, mais la juste mesure, il faut l'imposer, puisqu'elle ne va pas de soi. Et pour l'imposer, il faut un caractère de fer tout de même.
D'accord. Il paraît qu'il avait aussi beaucoup d'humour. Ça, c'est l'un de ses biographes, Diogène Laërce, qui dit ça. Vous confirmez?
En tout cas, pas dans ses textes. Pas dans ses textes. Non, mais alors, il semblerait, à ce que nous dit par exemple Cicéron, le philosophe latin qui vient bien plus tard, 1er siècle avant, et un peu après, qui nous parle de ses écrits publiés. Donc Cicéron avait encore accès à ses écrits publiés. Oui. Il nous dit que sa langue était encore plus embellie que celle de Platon. Et effectivement, il y parle d'humour, il y parle d'une langue déliée et d'une très grande aisance à écrire. Mm-hmm. Ça, évidemment, on ne peut pas le vérifier.
D'accord.
Parce que dans les textes qu'on a, c'est pas drôle.
C'est
vraiment pas sexy.
Et sur sa vie intime, justement, qu'est-ce qu'on sait?
On ne sait pas grand-chose. Hein. C'était pas la mode de savoir grand-chose dans la vie privée des philosophes. On sait évidemment qu'il a eu un fils, c'était quand même de bon ton d'avoir une famille, même si on pouvait aller voir ailleurs, auprès des jeunes garçons, ça ne regarde pas. Néanmoins, il a eu un fils, Nicomaque.
D'où l'éthique à
Nicomaque, qui est donc dédiée à son fils.
Mm-hmm. Donc il avait une femme et un fils.
Mais Socrate aussi, même s'il la déteste.
D'accord. On n'en a pas parlé avec Magdalène, c'est un dommage. Sa philosophie, son rapport au monde, vous en parliez tout à l'heure en faisant référence à ce fameux tableau, l'école d'Athènes, où donc Platon pointe un doigt vers le ciel et Aristote tourne la paume de sa main vers le sol. C'est ça, il ramène les choses sur terre. On peut dire en fait qu'avec lui, on se fie vraiment à tout ce que l'on perçoit, aux phénomènes. C'est vraiment ça?
Tout de même pas. On n'est pas dans l'empirisme extrême qui est plutôt récent, disons, dans l'histoire de la pensée. Non, non, tout de même, il y a une volonté de trouver ce qu'il y a de plus général. Ce qu'il y a de plus général, c'est l'être. Chez Aristote, et l'être, il en parle notamment dans La Métaphysique, qui est un livre très difficile, où là, le travail du philosophe est de s'abstraire justement du phénomène pour pouvoir construire par le seul acte de pensée ce dernier tissu du monde, le tissu, l'être le plus général possible. Ça, c'est un travail de la pensée. Donc le philosophe ne fait pas que regarder, il doit aussi réfléchir. Mmh. Et cette réflexion, elle va s'abstraire et former un système.
D'accord. Donc son œuvre, elle est immense, hein, il a écrit sur tout ou presque, on en parlait tout à l'heure. Et parmi ses textes, il y a Poétique, qui traite là des arts. Et c'est en s'appuyant sur cet ouvrage que nous allons voir en quoi la philosophie d'Aristote peut nous aider peut-être à reconsidérer la place de la création et de l'artiste aujourd'hui, plus de 2300 ans plus tard, c'est quand même fou. Mais en attendant, un peu de photos en musique.
Ice cream balnéaire. 80s Angleterre, ventre blanc à l'air, nager quelque part, New Brighton caissière, caddie pack de bière, plastique dans la mer, jeté quelque part, casino désert. Vert fluo des sœurs, cheveux bleus grand-mère, vieillir quelque part, gazole ou super, enfant à l'arrière, mal au cœur sur terre. dormir quelque part.
Vincent Delerme, inspiré par les clichés de Martine Parr. Clichés alors au sens propre et figuré, hein, sur des aires d'autoroute, sur des plages bondées, posant devant la Tour Eiffel. En fait, le photographe britannique saisit les gens dans leur quotidien le plus trivial et le plus souvent touristique. Et ça donne quelques-unes des photos les mieux cotées aujourd'hui sur le marché de l'art contemporain. Anthony Bekiroff, vous croyez qu'Aristote aurait aimé le travail de Martine Parr?
Sans m'avancer trop loin, je pense que non.
Ah,
non, il n'aurait pas aimé. Pourquoi ? Justement parce que c'est trivial, parce que c'est banal, et que Aristote dit haut et fort dans la poétique que l'art, et surtout la tragédie, art suprême, doit montrer des actions nobles, c'est-à-dire extraordinaires. Pas forcément belles à voir, néanmoins, il faut que l'action soit extraordinaire. Sinon, il y a aucun intérêt, tout simplement. Il n'y a qu'à regarder et pas prendre des photos. Voilà, il n'aurait pas aimé la photographie.
On s'interroge beaucoup aujourd'hui sur la place de l'artiste. À quoi est-ce qu'il sert? Est-ce qu'il est vraiment utile à notre société? N'y en a-t-il pas trop? A-t-on franchement les moyens aussi d'avoir tant d'artistes? Bref, à quoi bon? Comment est-ce qu'Aristote pourrait-il nous aider quand même à sortir de cette crise de l'art?
Bon, alors l'art, chez Aristote, est quelque chose de très important. Chez Platon, on se souvient, dans la République, l'artiste, on le tolère, mais il ne faut pas qu'il commence à nous marcher sur les pieds.
D'accord.
Il ne faut pas qu'il se croie philosophe, il ne faut pas qu'il essaye d'utiliser le même langage que la philosophie.
Donc pas trop de place non plus à l'artiste.
Voilà. Tandis que chez Aristote, l'artiste, tout d'un coup, a le rôle d'éducateur.
Ah oui, dans la cité, il a vraiment un rôle
d'éducateur. Oui, vraiment. L'artiste a une fonction à la fois morale, éduquer la cité, et une fonction métaphysique.
Métaphysique,
voilà,
alors
plus difficile.
Ça. Oui.
Bon, alors, pour faire simple, Platon, il critique l'art, spécialement la parole, la poésie. Pourquoi ? Platon, il parle des essences, des idées. Les idées, c'est des essences, c'est-à-dire des choses qui restent toujours identiques à elles-mêmes, qui ne sont pas affectées par le changement. Il nous dit, les choses de notre monde, elles, sont affectées par le changement. Ce ne sont que des images, des essences. Mais ces artistes, ils nous font encore des images en plus de ces objets qui sont déjà des images. Ça fait image au carré.
Ah oui, c'est redondant.
C'est redondant, on redouble l'illusion, donc on ne peut que mal informer. C'est de la désinformation, là, Platon. Aristote lui dit, attention, l'art, certes, il imite la nature, mais il n'imite pas les objets de la nature. C'est-à-dire, il imite ce que la nature fait. L'art, il crée des objets. La mimésis, donc l'imitation, chez Aristote, c'est plutôt un principe de création. Disons, il n'y a pas à chercher forcément un référent ou une véracité historique derrière l'objet artistique.
D'accord, ça renouvelle en fait le principe même de la nature, de création de la nature.
Exactement. Donc, on a des objets artistiques qui, étant certes des imitations, n'ont cependant pas de référent, ils n'ont pas de modèle. Quand il nous dit « l'art nous permet de regarder des formes monstrueuses », par exemple Œdipe.
Œdipe, la pièce de Sophocle, qui
couche avec sa mère, qui tue son père. Il dit « mais si on devait vivre ça, dans la réalité, disons, non esthétique, on ne pourrait juste pas le supporter. » D'ailleurs, Œdipe se crève les yeux. Par contre, dès qu'on passe à la création artistique, il y a transfiguration. C'est-à-dire, on peut regarder la pièce, il y a un certain plaisir à contempler ça. Or, si l'art reproduisait, comme le dit Platon, vraiment les objets de la nature, alors la pièce serait tout autant irregardable qu'elle est censée montrer. Donc, l'objet esthétique est en soi quelque chose qui n'a pas de modèle, et en plus, on ne peut pas en faire une image puisqu'il est déjà une image. Donc, l'art crée quoi ? Il crée des essences. C'est-à-dire des choses qui n'ont pas d'image et qui restent en soi.
D'accord. Donc, l'art comme utile aussi à la connaissance de soi, on dit.
Exactement. Parce que du coup, comme l'art nous donne des essences directement par les sens,
En deux mots,
il nous donne à contempler des essences. Mais des essences de quoi ? pas l'être, certes, ça c'est l'objet de la métaphysique et du philosophe, mais les sentiments. Il nous parle de catharsis, Aristote. Alors c'est quoi la catharsis?
Oui, c'est quoi la catharsis? C'est un mot qu'on connaît, mais peut-être pas dans le bon sens du terme.
Exact. Ben, disons, on ne connaît pas vraiment le sens du mot catharsis, c'est le problème. On sait qu'Aristote l'utilise à d'autres endroits pour parler de la musique et de son côté éducateur. Mm-hmm. C'est un terme qui prend de la médecine, mais comme d'habitude chez Aristote, il va subvertir le sens. Alors catharsis, ça veut certes dire épuration, soulagement,
oui,
mais aussi clarification, c'est-à-dire rendre une explication plus claire. L'art, la tragédie qui est en plus l'art mimétique suprême, étant donné que c'est joué par des hommes qui jouent des actions d'hommes pour des hommes, le public, mm-hmm, on n'a affaire qu'à des objets humains, mm-hmm, c'est des sentiments humains. Donc on a un sentiment. Un sentiment, c'est quelque chose de très particulier. Le sentiment, c'est justement individuel. Donc, l'art fait quelque chose qui est impossible pour la philosophie. La philosophie, elle peut s'occuper de l'être en général, assez abstrait finalement. Et il dit, la philosophie, malheureusement, ne peut pas s'occuper du particulier. Ça, ce n'est pas possible. Sauf avec l'art qui nous donne, par la contemplation, la connaissance des sentiments particuliers. Et ça, c'est la fonction métaphysique de l'art en général. Et donc, forcément, la catharsis est lié au plaisir de la connaissance de soi, et donc forcément, l'art est très utile en cela qu'il éduque à la fois l'individu pour lui-même, et donc il le prépare à la philosophie, mais aussi toute une cité, tout un peuple, parce que du coup, il l'élève à la justice morale.
Mmh. Et la place de la subversion maintenant dans l'art, parce que ça, c'est quand même très en avant dans à notre époque, sur l'art contemporain. Je pense à la dernière FIAC à Paris avec le fameux sapin vert de Paul McCarthy qui évoquait étrangement un plug anal et qui a fait scandale jusqu'à ce qu'il soit finalement vandalisé et jeté. Est-ce que cette dimension cathartique dont vous parlez, elle n'implique pas du coup nécessairement une certaine dose de subversion?
Non, pas chez Aristote. Alors, comme je le disais, Aristote, lui, exige quand même, disons, exiger le terme est fort, mais bon, une destinée morale de l'œuvre. On ne peut pas montrer des actions avilissantes à cause de la force cathartique. Si on montre des actions avilissantes dans une tragédie, dit-il, on risque de rendre les gens avilissants. Or, pour qu'une cité fonctionne, pour qu'il n'y ait pas de guerre interne, il faut que les gens apprennent la justice et le juste milieu. Ça passe forcément par la monstration d'actes qu'il dit nobles, par des hommes nobles. Il le dit comme ça qu'il définit la tragédie. Des actions nobles par des hommes nobles.
D'accord. Oui, donc voilà la double fonction de mm-hmm l'art, la double fonction éducative, elle mm-hmm est non seulement au plan individuel, mais au plan de la cité. De mm-hmm la, voilà, c'est ça. Hein.
On exactement
est, on a cette double fonction. On va peut-être lire un petit passage de cette poétique. Il semble que l'art poétique dans son ensemble doive son origine à deux causes, toutes deux naturelles. Dès l'enfance, les hommes sont naturellement enclins à imiter et tous les hommes trouvent du plaisir aux imitations. Un indice est ce qui se produit dans les faits. Nous prenons plaisir à contempler les images les plus précises des choses dont la vue nous est pénible dans la réalité, comme les formes des monstres les plus répugnants et les cadavres. En effet, on aime regarder les images parce qu'en même temps qu'on les contemple, on apprend et on raisonne sur chaque chose, comme lorsque l'on conclut « cette image, c'est lui ». Voilà, ce qui résume parfaitement ce que vous nous disiez tout à l'heure. Aujourd'hui, la perte de sens de l'art, elle tient aussi à sa marchandisation à outrance. Hein. L'art est un investissement maintenant, avant toute chose. S'il se fait une place, c'est surtout chez Sotheby's ou dans les ports francs bien protégés de Genève. Qu'est-ce que Aristote pourrait nous dire là-dessus?
Alors évidemment, la situation de l'art à l'époque d'Aristote était incommensurablement différente de celle d'aujourd'hui. La tragédie, il la met en avant aussi parce que c'est un art populaire. C'est-à-dire, on le présente lors des célébrations de la cité. Il y a forcément, nécessairement, une pièce qui est jouée. Comédie, tragédie. D'ailleurs, dans la poétique, il parle de la comédie, mais on a perdu le second livre qui développait la comédie et la catharsis. Donc, évidemment,
on a le plus triste.
On en est qu'en conjoncture. il n'entrevoit pas Aristote, le côté commercial, et c'est vrai qu'évidemment le côté commercial était moins développé. la tragédie est quelque chose qui n'est pas commercial. Dans sa présentation, évidemment, il faut de l'argent, il faut des mécènes pour pouvoir produire une scène, un texte, etc. Mais on ne paye pas pour aller le voir. Évidemment, il parle de la peinture, et la peinture, chez Aristote, c'est quelque chose de déjà plus privé. La peinture, c'est ce qu'on fait peindre chez soi, on fait poser des mosaïques, tout ça. Mais c'est réservé, disons, à une élite. Mm-hmm. Mais on n'a pas encore tout ce côté commercial qui est rampant et gluant dans la société contemporaine. Et je pense qu'il aurait été vraiment offusqué de voir les formes artistiques être comme ça, phagocyté par les considérations commerciales, parce que du coup, on crée une élite au niveau des classes sociales et on n'arrive plus à éduquer de manière uniforme la cité.
Mmh. D'accord. Merci beaucoup. Vive la création artistique, donc. Hein. Merci Anthony Bekirov. Et je ne vous dis pas adieu, car on vous retrouvera dans quelques jours, le 13 juillet. Je le précise pour vos fans, désormais, qui ne voudraient pas vous rater. Nous parlerons cette fois amour des chiffres et des études avec un philosophe non moins carré, Emmanuel Kant. On salue Frédéric Collère, qui a réalisé cette émission. Jean-Baptiste Roumans a, comme à son habitude, choisi un titre musical ad hoc, qu'il en soit remercié. Et je vous propose, chers auditeurs, de nous retrouver demain pour tenter tous ensemble de calmer nos émotions négatives grâce au stoïcisme. D'ici là, je vous souhaite une belle et surtout très créative journée.
Retrouvez les plus